Disons que la batterie roule.
Oui.
Le rideau se lève.
Bien.
Toi, tu vas te préparer par là.
Oui.
Moi, je vais par là. Et le spectacle commence.
Ah,
ah non, non.
Les radios francophones publiques présentent Charles Aznavour sur ma vie. Une émission de Francis Legault sur France Inter.
Je n'avais pas une voix comme tout le monde. Les gens ont eu énormément de mal à se familiariser à cette voix. Et puis une fois qu'ils se sont habitués à ma voix, c'est devenu une chose absolument normale et courante. On a commencé par penser que j'avais une voix comme personne. Et puis je pense qu'ensuite le public a pensé que j'avais une voix comme tout le monde.
Charles Aznavour, je me voyais déjà.
Je me voyais déjà, c'est une chanson qui vous est venue comment, un petit clin d'œil à vous-même ou quoi?
Non, j'étais déjà...
Ah non, vous étiez déjà installé. Très connu,
non, c'est, je l'ai vu, j'ai vu le personnage. Nous étions avec des amis à Bruxelles, sur la place de Brouckère, il y avait un cabaret, je crois qu'il s'appelait le Moulin Rouge. Et puis, il était déjà 3h du matin et nous, on était pas mal en bon état. Et j'ai vu rentrer un garçon en costume bleu électrique, vous voyez, bleu pétrole, on appelait ça à l'époque. Oui. Et ce garçon pensait que, comme nous étions dans la salle, c'était son soir et que c'était ça. C'était là qu'on allait s'apercevoir du talent qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait dans le ventre. Il avait malheureusement pas grand-chose. Et quand je suis parti, il y en a quelques-uns qui ricanaient. Moi, j'étais très, très touché. Parce
douloureux,
que
quand même.
C'est douloureux. Touchant. Je suis rentré et j'ai déjà écrit quelques phrases parce que ça me disait quelque chose d'important. Ça n'était pas seulement la chanson, c'est dans tous les métiers. Ça s'adresse à tous les métiers, je me voyais déjà, pas seulement à quelqu'un qui chante.
Début des années 50, Charles Aznavour rencontre un public désobligeant et une presse hostile. Bref, un cocktail peu réjouissant pour un chanteur qui entame une carrière solo. Patrick Bruel.
Aznavour a cette force de... Il a eu l'intelligence de s'adapter, de savoir où se mettre. L'intelligence d'arriver, par exemple, sur une grande scène, un jour, en disant « moi, c'est bien d'être sur une grande scène parce que je suis petit ». C'est drôle, ça, hein ? De négocier et d'optimiser le contraste, comme ça. C'est quelque chose d'assez fort, de transformer en qualité tout ce qu'on pouvait lui accorder comme défaut, en se battant, en résistant à la presse, en résistant à ce qui a été dit sur lui. Je sais pas si on a dit plus de méchanceté sur un artiste que ce qu'on a dit sur Aznavour. À une époque où on disait des choses sur moi qui étaient peut-être pas toujours agréables à lire ou à entendre, j'en parlais avec Michel Drucker un jour, il me disait « mais est-ce que t'as lu ce qu'on a dit sur Aznavour ? Est-ce que tu sais ce qu'on a dit sur Aznavour ?» Il me dit « alors c'est du sirop pour toi, par rapport à ça. » Et on m'a ressorti des trucs que j'ai lus. C'est incroyable.
Aznavour tue ses chansons avec sa voix inaudible, inécoutable. Il doit être affligé d'une laryngite chronique.
Cet Arménien n'est pas comestible, enfin. C'est un crucifié du traversin à qui les gens du spectacle ont fermé leurs portes. Comment peut-on laisser un infirme chanter ?
Aznavour imite toujours quelqu'un. Beko, Philippe Clay. Il est incapable d'imposer sa propre personnalité.
Nous sommes en présence d'une sorte d'escroc de petite envergure, aux dimensions de sa taille.
C'est la voix des cavernes, celle d'un mouezzine enroué, d'un bronchiteux. C'est une atteinte directe à l'esthétique.
Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter, non ? Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. Il pourrait chanter en comptant, mais qu'il ne compte pas faire une carrière dans la chanson.
Enfin, incroyable, et à la fois, il est là aujourd'hui parce qu'il avait cette force et cette envie d'exister plus que les autres. Comme il explique bien dans sa chanson, que je me voyais déjà, c'est formidable cette chanson. Chanson qui donne de l'espoir, ça, je me voyais déjà. Tous les gens qui veulent faire ce métier prennent cette chanson et puis ils disent « allez, on y va ».
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Annie Cordy, sans cigarette, sans whisky, ni petite pépée.
Moi, celle que j'adorais, c'est « Je me voyais déjà en haut de l'affiche ». Voilà encore une chanson qui parle vrai. C'est pour ça qu'on aime ces chansons. Parce qu'il dit des vérités. Que, mais ça coule de source ce qu'il vient de dire, là. Et c'est vrai que quand on débute dans ce métier, on se dit « Et je serai comme ça, et je serai comme ça ». Quand même, Charles, quand il a commencé, il avait une voix un peu comme ça. Oh, parce que moi, je me souviens que j'étais en tournée dans le midi et que j'avais le père du tourneur qui me disait toujours « Mais ce garçon devrait se faire opérer. » Oui, il est toujours... Il est malade, cet homme. Oui. Et je dois dire que Charles, sa voix, au plus il est allé dans la vie, au plus elle a éclairci. Car si on écoute Charles, le Charles d'il y a... je compte il y a 40 ans, c'est une voix beaucoup plus rauque et moins affinée que ce qu'elle est maintenant. Hein.
Le chanteur Marcel Amont.
Charles était obnubilé, était hanté en permanence par son besoin créatif. Charles était en effervescence perpétuelle et il m'avait même dit qu'il était insomniaque à une époque. Et en plus, je suppose, puisqu'à un moment donné... Il n'avait pas la voix de tout le monde, il avait cette voix rauque, personnelle, qui me séduisait tellement et qui séduisait pas mal d'entre nous, mais pas l'unanimité du public. Et je pense qu'il a eu, en plus de ce besoin forcené de création, il a eu un besoin de revanche, de dire « moi je vais vous faire voir, moi, tiens, je vais vous faire voir, moi, si je suis une quantité négligeable ». Et à un moment donné, les gens, même qui n'étaient pas séduits par son timbre de voix et par son physique, ils ont fini par être intrigués. Ils disaient, mais enfin, de Charles Aznavour, hein, voici, tanda, Juliette Gréco, et de Charles Aznavour, Eddie Constantine, et voici. Et alors, mais tout le monde chantait de l'Aznavour, de l'Aznavour, de l'Aznavour.
Charles Aznavour et Florence Véran, je hais les dimanches.
Charles Aznavour et Gaby Wagenheim ont écrit un jour une chanson un peu idiote qu'ils ont baptisée « Si j'avais un piano ».
Charles Aznavour et puis Gaby Wagenheim, pour une chanson qu'ils ont appelée « Parce que ».
Car tout le monde chantait de l'Aznavour. Et tous azimuts. car il écrivait « Je hais les dimanches », il écrivait « Plus bleu que le bleu de tes yeux », et il écrivait aussi des chansons pour Philippe Clay, il écrivait des chansons pour Marcel Amont, ah, il faisait pas le détail, hein. Ben, je crois qu'il était en état de réception créatrice permanente, et il fallait que ça pisse. Il fallait que ça pisse, c'était le tonneau des Danaïdes.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux.
Lorsque nous nous sommes séparés avec Pierre, Édith Piaf m'a prise avec elle dans ses tournées. Et alors à partir de ce moment-là, quand j'avais chanté deux chansons, il fallait que je parte en courant. Mais alors vraiment en courant. Parce que lorsque je me retournais, ou si on se retourne un petit peu, on prend son temps, on sort, et puis on revient pour saluer. Moi, j'avais même pas remué le nez de 4 cm que plus personne n'applaudissait. J'ai fait 3 ans de tournée régulièrement, dans les mêmes villes, avec les mêmes chansons. La première année, ils ont été mécontents. La deuxième année, ils se sont dit, il faut le tuer. Et puis la troisième année, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a marché. Dans les mêmes villes, les mêmes théâtres, les mêmes chansons, donc je suppose le même public. Ils se sont dit, bon, puisqu'on est là, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'Édith Piaf nous l'impose de force, autant ne pas faire de scandale, écoutons ce qu'il dit. Et puis je suppose que mon texte a pris le dessus sur ma voix.
L'ami de Charles Aznavour, Serge Lama.
Tous les chanteurs qui ont réussi ont bien entendu beaucoup de volonté. Mais la volonté la plus énorme, la plus gigantesque, la plus enracinée, la plus viscérale, c'est celle de Charles, parce que c'est le chanteur qui avait le plus de choses au départ contre lui. Contre lui, il ne faut pas l'oublier qu'il a commencé sa carrière dans les années 50, à une époque où la voix était reine. C'est-à-dire que c'était Mariano qui était la superstar, et les chanteurs de charme, André Claveau et autres, Guettari, etc. Et les chanteurs se devaient d'avoir un organe vocal, parce que même Becco avait quand même une voix, avec quelque chose. Lui, il avait une voix qui était absolument insupportable à l'oreille de la plupart des gens. Et son premier succès, d'ailleurs, d'estime pour les aficionados, dont je faisais partie, c'était un succès qui n'était pas de lui. Il avait refait une version moderne de Coucher dans le foin de Mireille et Jean Nohain, qui chantait avec une voix épouvantable, mais avec un swing qui était absolument extraordinaire. Et que si on retrouve maintenant au plus les premiers disques de Charles, il n'a plus du tout la même voix, malgré tout. C'était une voix complètement cassée, complètement brisée, complètement. Et il a eu beaucoup de mal à cause de ça.
Il ne faut pas que je vous cache que j'ai toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort. Hélas, le métier de toréador n'a jamais été notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pende ou qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pied, un seul pied de ma vie. Je suis ainsi, tant pis, et c'est dommage. La fille de la fermière est charmante et l'on a le même âge. Par bonheur pour les amoureux, il est au grand air d'autres jeux. Des jeux qu'on aime davantage, des jeux qu'on aime davantage. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah, que la vie est douce, douce, toute douce. Couché dans le foin avec le soleil pour les mains.
Il avait un physique pour l'époque impossible. On ne peut pas dire qu'il ressemblait à Alain Delon, je veux dire. Alors que Mariano était beau, par exemple, tout ça, il avait ça contre lui. Il n'était pas très grand. Même, on peut dire qu'il était petit. Alors qu'on disait toujours, dans ce métier, il faut quand même faire 1m77, 1m78, pour quand même qu'on vous voit sur scène. Et il a ouvert la voie à tous ceux qui sont arrivés derrière. Il a ouvert la voie à des gens comme Hugo Frey, qui n'auraient certainement pas existé si Aznavour n'avait pas été là. Il a ouvert la voie à tous les chanteurs, entre guillemets, sans voix, qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plein de carrières aujourd'hui dont les gens ne se rendent pas compte. Gainsbourg n'aurait jamais fait une carrière si Aznavour n'avait pas dépucelé le fait qu'on puisse chanter avec n'importe quelle voix.
France Inter. Le chanteur Hugues Aufray.
Ma grand-mère, en écoutant Charles Aznavour, s'évanouissait, quoi. Elle était professeure de chant, elle n'imaginait même pas qu'on puisse chanter avec une voix pareille. Il a réussi à retourner tous ces préjugés négatifs. Petit, avec un très grand nez. Bon, il a fait un petit peu modifier le nez. Avec une voix complètement sourde et brisée. Brisée par, forcément, la souffrance. Quand quelqu'un a une voix sourde et un peu enrouée, comme ça, c'est quand même quelqu'un qui a une blessure profonde. On n'en parle jamais de ça. Moi, j'ai tendance à penser que le son de voix est aussi significatif que le visage.
Miroir, miroir, dis-moi, qui est le plus beau ?
D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la beauté ? C'est un petit peu comme quand on vous dit dans un restaurant, « Monsieur, il faut mettre une cravate ». Qui a décidé qu'on se mettait une cravate autour du cou? Et si je me mettais une cravate autour de la ceinture et que je rentrais, je dirais, monsieur, j'ai une cravate? Alors qu'est-ce qu'on appelle la beauté? Est-ce que la beauté, ça n'est pas ce qui se dégage plutôt que ce qui est plaqué sur le visage de quelqu'un? Dans ce cas, j'ai une certaine beauté. Si on parle de beauté pure, je n'en ai pas du tout. Le principe, c'est de plaire. La beauté, finalement, c'est par rapport aux femmes, faut le dire franchement. Le fait, c'est que je ne crois pas avoir plus moins que beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus beaux que moi. J'ai eu une vie amoureuse assez mouvementée dans ma vie, et ça n'était pas parce que je m'appelais Aznavour, parce que ça a commencé bien avant. Et même, c'était plus important avant, et je m'étais pas encore fait opérer du nez. Seulement, j'avais la beauté du baratin. J'avais fait le tour de moi-même.
France Inter.
Pourquoi avoir fait changer votre nez ?
Parce qu'ils ont insisté, parce qu'ils sont venus à Troyes et qu'ils m'ont travaillé pendant toute une nuit. Il y avait une femme qui s'appelle Reine, qui est une amie de Maurice Chevalier à New York. Il y avait Piaf et il y avait Constantine. Pendant une nuit entière, ils m'ont cassé les pieds pour que je me fasse opérer du nez. Et alors j'ai dit, bon, bah d'accord, je vais me faire opérer du nez. Par la suite, on a pris le rendez-vous et puis on a fêté mon entrée à la clinique. On s'est saoulé, bien proprement et correctement, comme on savait le faire à l'époque avec Edith. Et puis il était 6h du matin et à 7h je rentrais en clinique. Et à ce moment-là, Edith m'a fait « Je crois qu'on a tort de te faire opérer du nez ». Alors j'ai dit « Maintenant, il est trop tard ».
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. J'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur. Et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. Que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime. Et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi.
La muse de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco.
Charles, il a eu à se battre contre lui-même. C'était difficile pour lui, très 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 difficile, à cause de son aspect physique. C'était pas du genre grand beau mec, maître nageur tombeur. C'était un être fragile, apparemment. À l'intérieur, c'est de l'airain.
Devant les blessants insuccès et l'impitoyable critique, parfois un artiste se tourne vers son étoile et l'interroge. Le biographe et ami Richard Balducci.
Il arrive souvent à Charles d'aller à la porte de Montreuil, chez les Gitans. C'est un monde qu'il aime bien. C'était la mère de Django Reinhardt et de Joseph Reinhardt, qui étaient des gens que Charles vénérait beaucoup. Et c'est là, à Montreuil, au pied de sa roulotte, qu'elle lui avait dit tout ça. Elle ne lisait pas les lignes. Les lignes, pour elle, ça ne voulait rien dire. Elle caressait la paume de la main et elle lui a dit...
Toi, des points communs avec une jeune dieu que les Grecs appelaient Hermès. C'était le dieu des roussés et des voleurs, mais c'était aussi le dieu des menteurs et des poètes. Tu lui ressembles. Mais je vois tout de suite que tu es roussé, mais pas voleur. Poète, mais pas menteur. Tu brodes autour de la vérité pour la rendre plus belle. Tu inventes des légendes que tu chanteras pour les transmettre au monde.
Et cette phrase-là, Charles ne l'a jamais oubliée. Et il s'est toujours rapproché de cette prédiction.
C'est après l'avoir vu au Moulin Rouge à Paris que Bruno Cocatrix invite Charles Aznavour à chanter à l'Olympia. Pour Charles, c'est l'ultime chance. De sa loge, il écrit à sa sœur.
Un jour, il m'a écrit une lettre. Il m'a dit « Tu sais, Aïda, ce soir, c'est un très grand soir pour moi parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Sur ma vie ». J'ai un trac, je t'écris une heure avant mon entrée en scène. Où je gagne, où je perds.
Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, j'attendais, mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu car tu n'es pas venu. Sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur et tout est perdu. Car il ne va plus, mais il pleure, mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et même à présent, je tiendrai serment malgré tout. Le mal que tu m'as fait sur ma vie, chérie, je t'aimerai.
Aznavour a gagné son pari. Le journaliste Jacques Pessis.
Au début, il a été très critiqué, comme tous les artistes d'ailleurs qui débutent. Et puis finalement, en 1955, à l'Olympia, quand il a créé Sur ma vie, eh bien, ça a été le commencement d'un succès qui ne s'est plus arrêté depuis et qui continue à toucher aujourd'hui les plus anciens comme les plus jeunes. Car Charles Aznavour est un homme qui réunit plusieurs générations.
Jean-Michel Boris, ex-directeur artistique de l'Olympia, se souvient de cette heure de gloire.
Je crois que son premier passage à l'Olympia, c'est en juillet ou en juin-juillet 55. Il était la vedette américaine du spectacle de Sidney Méchet. Et dans ce spectacle, il y avait Marceau, le mime Marceau. Vous voyez qu'on faisait des spectacles assez étonnants à ce moment-là. Et puis le spectacle avec Roger Péa, Jean-Marc Thibault a dû venir quelques mois plus tard. Il y avait Gloria Lasso, il y avait Annie Fratellini et Philippe Brun qui étaient dans le spectacle. On a fait 3 semaines avec ce spectacle, ça a été la folie. Hein, vraiment, jamais je crois que le niveau de remplissage de l'Olympia n'a été atteint à ce niveau-là, parce qu'à ce moment-là, nous faisions matinée le jeudi, matinée le samedi, 3 séances le dimanche. Donc c'est vous dire que ça faisait beaucoup de spectacles. Et tous étaient complets, donc ça a vraiment été un événement.
La perle noire du music hall parisien, Joséphine Baker, tombe elle aussi sous le charme d'Aznavour.
Moi j'aime beaucoup les chansons de toutes les artistes modernes qui sont à la mode, mais un peu spécialement Charles Aznavour, parce que alors là, ces chansons, lui aussi, sont tellement... L'autre jour, c'était quelques semaines, j'ai resté jusqu'à la dernière chanson et je pouvais pas me quitter la salle en espérant qu'il chanterait encore une autre chanson.
Enfin, Charles Aznavour voit son nom en haut de l'affiche. À chacun de ses 7 passages à l'Olympia, celui qu'on avait méchamment surnommé la Laryngite recueille les bravos du public et de la critique. Denise Alberti et Nicole Brice.
Si on en juge au succès qu'a eu Charles Aznavour ce soir, eh bien pendant les 90 soirées, car il va chanter 90 soirs, le succès sera le même. D'ailleurs, je crois savoir que toutes les places sont louées.
Pour 90 soirées?
Pour 90 soirées. Charles Aznavour n'est pas exigeant, il exige simplement 90 succès consécutifs.
Bien.
Il était très calme, il avait une très jolie chemise rose. On dit qu'il a grandi, je ne sais pas, en tout cas, il est...
Il aurait passé l'âge, non?
Non, non, Charles Aznavour continue à grandir en talent et peut-être en taille, pourquoi? Car il a gardé, dit-il, une âme d'enfant.
Tu te laisses aller... Tu te laisses.
Ça va.
Allez.
Ça va.
Même me laisser complètement dans le vide. Viens.
Voir les comédiens.
Voir les musiciens. Voir les magiciens. Pouf, qui arrive? Et à ce moment-là, il y a un effet de lumière.
La chanteuse Monique Lérac, à contrario.
Je crois que la première chanson qui a marché à Paris, quand il est retourné à Paris, qui a vraiment marché, qui a fait de lui la vedette qu'il est devenu, c'est une chanson comme. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Bon, personnellement, je peux dire que j'ai toujours préféré ses premières chansons. Le côté qui plaît au plus grand nombre, ce qui est important si vous voulez faire une carrière internationale, bien entendu. Bon, disons que ça me plaît moins à moi, mais... Il disait, par exemple, moi, quand je chante une chanson et que je vois dans les rangées devant moi une fille qui pose sa tête sur l'épaule du garçon, je suis content. C'est ça qu'il voulait atteindre. Il voulait les atteindre au cœur. Donc, il a utilisé des mots plus simples.
Le ciel tisse une couverture en laine. L'été prépare ses quartiers d'hiver. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène. Je te réchaufferai. Allons rêver sur les bords de la Seine, s'il reste encore quelques petits coins verts. Et si le fond de l'air est frais, Hélène, je te réchaufferai. En passant mon bras autour de ton épaule, et si malgré mon bras la brise travaille à bien jouer son rôle, tu prendras mon chandail. Si le temps, malgré mon chandail de laine, venait troubler le calme de ta chair, en te serrant tout contre moi, Hélène, je te réchaufferai. La, 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 la. Mais si le vent soufflait à perdre haleine, nous irions vite abriter notre amour. Et blottis dans notre grenier, Hélène, je te réchaufferai. Je fermerai fenêtres et persiennes, je bouclerai la porte à double tour, et en faisant une flambée, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En offrant au feu tout le bois qu'il réclame, et s'il manque du bois, je mettrai aussi nos meubles dans les flammes, ne gardant que le lit. Mais si le froid contre nous se déchaîne, et si le feu ne t'aide aucun secours, par la chaleur de mon amour, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Le ciel tisse une couverture en laine, le soleil fuit lorsque l'hiver paraît. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai.
Juliette Gréco.
Sur France Inter.
Charles, c'est quand même un langage un peu macho, quelque part. Mais c'est un vrai langage d'homme, quoi. De ces hommes qui épousent des femmes et qui ont des enfants. Un vrai mec, quoi. C'est pas un langage de dingue. C'est pas un langage de dingue comme Ferré, c'est pas un langage de dingue comme Brel, c'est pas un langage de dingue aussi comme Brassens, qui est aussi un langage macho. Mais différent. Peut-être que Charles a un côté plus normal, hein, entre guillemets, hein. Oh, minute.
Déshabillez-moi.
Le chanteur Hugues Auffray.
Et vous?
Le style d'écriture d'Aznavour se différenciait totalement de Georges Brassens qui vous voyait, les femmes. Charles Trenet aussi disait « Vous qui passez sans me voir ». Lui, c'est le tutoiement. Il avait une façon de parler, de s'adresser au sexe féminin, avec une intimité qui était nouvelle. Mais c'était pas mode. On n'arrivait pas à dissocier les mots du son de la voix. C'est ça que je crois. Et il y avait, à ce point de vue-là, une émotion humaine qui rapprochait Aznavour des chansons Poulbeau, un peu, vous savez, qui correspondent au dessin de Montmartre, quoi. Il était, et voilà, il avait un côté Montmartre. Et cette écriture, ça, il l'a gardée toute sa vie. Dans le style d'Aznavour, il y a une sorte de réalisme, mais qui reste quand même poétique. Quand il fait « Après l'amour », etc. Après l'amour, ça a choqué les gens. Cette image de ce couple qui va fumer une cigarette après avoir fait l'amour, comme ça, dans les draps.
Nous nous sommes aimés, nos joies se sont offertes, et nos cœurs ont battu, poussé par cet instinct qui unit les amants en se fichant du reste. Tu glisses tes doigts par ma chemise entrouverte et poses sur ma peau la paume de ta main. Et les yeux mi-clos, nous restons sans dire un mot, sans faire un geste. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts, nous restons étendus. Et moi presque nu, heureux, sans rien dire, éclairé d'un même sourire. Après l'amour, nous ne formons qu'un être. Après l'amour, quand nos membres sont lourds, au sein des draps froissés, nous restons enlacés après l'amour, au creux du jour,
Croisée à la maison de la radio, Hélène Azéra fouinait dans les fiches de la discothèque.
Alors, donc sur le fichier, ça commence avec Aznavour, Aïda, donc la sœur. Bon, on arrive à Aznavour, sur ma vie, etc. Et puis, comme je sais qu'il y a eu des problèmes, je regarde l'amour, bon Dieu, l'amour c'est comme un jour, l'amour et la guerre, radiodiffusion interdite par le comité d'écoute. Aznavour, 10 mai. La chanson date de 61. C'était la fin de la guerre d'Algérie, c'était pas tout à fait le moment de faire l'apologie du pacifisme dans les chansons interdites par le comité d'écoute en 60. Elle est sortie en pleine guerre d'Algérie, fallait oser. Alors il y en aura un autre, Après l'amour, et là il y a encore la pastille, radiodiffusion interdite par le comité d'écoute. Et puis en 66, c'est encore interdit, la réédition de 66. Et là, c'est le contenu érotique qui a choqué, quoi. Là, on voit bien qu'il lui a pas tenu la main, qu'ils ont vraiment fait l'amour dans les draps. Et, vous voyez, j'ai tant rêvé de toi que les draps s'en souviennent. Bah, c'est déjà un petit peu, il y a une crudité, quoi.
Jacques Pessis.
Alors, Charles Aznavour a subi les foudres de la critique et de la censure pendant des années, mais en même temps, si on ne subit pas les foudres de la critique et de la censure en essayant d'innover dans quelque chose qui touche le grand public, on n'avance pas. Comme ils disent, c'est aussi une chanson d'avant-garde. Elle a fait scandale et aujourd'hui, elle fait partie des classiques. Je me voyais déjà quand c'est sorti. On disait, mais comment se permet-il de parler du musical de cette façon, de la chanson de cette façon, alors qu'aujourd'hui, hein, Je me voyais déjà, c'est une référence. Donc, Charles Aznavour, sa force, c'est de prendre l'air de son temps, qu'elle concerne certains sujets qui touchent le grand public, certains sujets qui touchent l'univers qui lui est cher, et de les transformer à sa manière. Et effectivement, bien, quand on touche à l'air de son temps, quelquefois on fait scandale et on subit les foudres de ceux qui n'apprécient pas l'air de leur temps et qui pensent au passé et qui vivent dans le passé.
France Inter, Juliette Gréco.
Je dirais que Charles a une vision très cruelle de certaines choses. Tu te laisses aller, c'est terrible. C'est terrible. Il a écrit ça comme Daumier ou Toulouse-Lautrec pouvait peindre. Ou dessiner. C'est très cruel, très très cruel. C'est violent. Les couleurs sont contrastées. Il y a des rouges très forts, des verts très forts, des noirs très forts. Il y a des choses de Charles que personne n'oserait dire et que personne n'oserait écrire. Parce que personne ne sait comme lui le faire. Il y a la manière. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Ça, c'est un truc que je déteste. Mais c'est vrai. Ça me révolte. C'est une phrase qui me révolte, qui m'a toujours révoltée. Mais elle me révolte parce qu'elle est claire, quoi. Elle dit bien ce que ça veut dire.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire. Dans une vie bête à pleurer, il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable
mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas.
Si j'avais pas cette voix, j'aurais pas ce tour de chant, j'aurais pas écrit ce que j'ai écrit, parce que j'ai tout écrit par rapport à ma voix, pour m'aider finalement. Je me suis habillé, j'étais le tailleur qui s'habillait. Moi, je sais pas, je ne trouve plus que j'ai une voix feutrée. Avant, j'avais l'impression d'avoir un triple voile sur la voix, et puis tout d'un coup, j'ai l'impression que ça sort beaucoup plus facilement. Je suis souvent effrayé d'ailleurs, parce que je me dis, si je finis par avoir de la voix, ça va être la fin de ma carrière.
France Inter.
J'ai toujours aimé les voix. Mais même dans le musical, par exemple, une voix comme Mariano m'a toujours impressionné. Et j'ai tout fait pour essayer d'avoir une voix étendue. Je me suis vraiment déchiré la gorge. Mais je crois avoir réussi. La conserver, je sais pas. Mais pour l'augmenter, pour monter cette tessiture, je sais comment on fait. On travaille. On hurle. Enfin, moi, je travaillais pas d'une manière académique. Je hurlais. Je me mettais au piano, je tapais sur une note et jusqu'au moment où j'arrivais à attraper la note vocalement, je travaillais.
Le chef d'orchestre, Paul Moria.
J'ai fait une orchestration Paris au mois de mai. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il n'a pas beaucoup de tessiture. Il a plus de 2 octaves.
J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent d'une nouvelle jeunesse. S'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener. Par les rues qui se profilent, à travers toute la ville, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme. Heureux de voir le soleil briller. J'aime le vent qui m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener par les rues qui fourmillent tout en draguant les filles. J'aime Paris au
mois de mai. Avec ses bouquinistes et tous ses aquarellistes que le printemps a mené comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai, ce qui ne veut pas dire que j'aime pas Lyon ou Marseille, la Seine qui l'arrose et mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime, j'aime Paris au mois de mai.
Je voulais vous faire écouter cette chanson parce que ça prouve d'abord son étendue qui est extraordinaire. Il fait plus de 2 octaves. Il chante jazzy très bien. Il chante quelque chose de très prenant et très triste très bien aussi. Il sait tout faire. Et je pourrais vous dire que le titre qu'on vient d'écouter me donne encore les larmes aux yeux. Quel chanteur! Je vais peut-être vous surprendre, mais très souvent j'écoute les chansons de Charles. Même celles que je n'ai pas enregistrées. Parce que sinon ça ne voudrait rien dire.
Le comédien Michel Serrault.
Quand il parle dans ses chansons des couples qui disparaissent ou qui ne s'entendent plus, quand il parle des homosexuels, quand il y a une espèce de tendresse et d'humanité, tout ce qu'il chante, ça va vers la communication et puis cette espèce de nostalgie du bonheur, je dirais. Il a une chose tout à fait extraordinaire, c'est que il pourrait me chanter la chanson la plus réjouissante du monde. Il a son passé avec lui. Alors il me cueille à chaque fois parce que il va me parler, je sais pas, il va faire une chanson qu'il a mangé des moules sur les bords de la Marne, etc. Il va y avoir un moment de détresse là-dedans. Il a sa personnalité qui vient de sa foi, de sa religion, de son pays, etc. Et à chaque fois, c'est un morceau de lui-même qui joue. C'est cette sensibilité qu'il a, qu'il est arménien, bon, il trimballe des années, des siècles, on dirait, de recherche. Il y a une espèce de, pas de lassitude, mais il m'émeut à chaque fois, n'est-ce pas? La plupart des gens qui m'ont épaté venaient du music-hall. Gabin était boy, il a chanté la revue. Michel Simon a fait aussi tous les métiers. Fernandel a fait son tour de chant, Bourville a fait un tour de chant, De Funès a fait du cabaret, etc. Poire et Serrault, on n'a pas été engagé à la Comédie Française, on a fait du cabaret. Je veux dire que le passage de tous ces gens-là par le cabaret, on pourrait conclure que c'est une bonne école.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
Charles Aznavour par Alain Poulenges.
Quand je rencontrais un journaliste qui avait dit du mal de moi, je le rencontrais et je le saluais. « Oh, comment allez-vous? Je suis ravi de vous rencontrer. » Et il était très embêté parce qu'il disait « Il n'a pas dû lire l'article. » Je l'avais lu en vérité.
Vous êtes un teigneux.
Et c'est affreux de faire une chose pareille. C'est pire que d'aller lui dire « Vous êtes un salaud, vous m'avez escaté. » Rien, non, pas un mot, gentil. Mais par contre, j'ai eu un mea culpa qui m'a fait un plaisir énorme. J'avais été esquinté, chaque fois j'étais esquinté, c'était dans l'Intran, je crois, ou dans Paris Soir, pas dans lequel, par Marcel Iskowski, qui est un excellent journaliste en plus. Et alors, plus le journaliste était bon, plus ça me faisait mal. Parce que quand c'était un mauvais, je me disais, des articles comme ça, j'en écris tous les matins à mon réveil. Hein. Mmh. Et Iskowski, donc, m'esquintait à chaque fois. Et il était secrétaire général de la Comédie Française. Et un jour, il demande à ses sociétaires, on va faire un gala de bienfaisance, qui pensez-vous qu'on pourrait inviter? Et ils répondent, Aznavour, qui est quand même embêtant. Mais il dit, bon, il m'envoie un de ses sociétaires pour me demander si je voulais bien chanter. Je réponds, écoutez-moi, je veux bien chanter à condition que lui me le demande. Parce que j'ai un côté, je suis pas idiot quand même. Hein. Il l'a fait, il m'a invité à déjeuner, et il m'a demandé si je voulais bien chanter. Je lui ai rien dit, hein. J'ai dit avec plaisir, et j'ai fait le gala de la Comédie Française. Et puis par la suite, lui qui n'avait peut-être pas écouté mes chansons, mais qui les avait simplement entendues, a fait un mea culpa en grosses lettres, en titre, dans le journal. Je trouve que ça a été mon plus grand plaisir et ma plus belle victoire.
Charles Aznavour, de passage à l'émission La Chanson Française, animée par Marcel Sicard.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous n'avez pas encore eu, que vous voudriez avoir dans ce métier?
Un désir, Aznavour.
Un désir.
Parce qu'en fait, quand on a fait le succès que l'on pense avoir fait, on l'a fait quelque part de déterminé, on ne l'a pas fait partout. Alors il y a encore beaucoup de pays où on pourrait le faire.
Le monde est grand.
Le monde est grand, oui. Puis après, il y a la Lune.
Tu ne penses pas que de dire « la Lune m'attend maintenant, l'Amérique, le monde entier », ça puisse indisposer le public?
Je ne vois pas pourquoi ça indisposerait le public, parce que je pense qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont prouvé qu'ils m'aimaient bien, je pense qu'ils doivent être fiers si je fais plus que ce que je fais en France, parce qu'ils se diraient « en fait, c'est grâce à nous s'il va à l'étranger ».
C'était la plus belle réponse à faire.
Oui, c'est le public français qui m'a découvert. À partir du moment où un autre public va me découvrir, on va dire « ils viennent après nous ».
C'était Charles Aznavour, Je me voyais déjà. Une production des radios francophones publiques, la RTBF, la Radio Suisse Romande, Radio France et Radio-Canada. Narration et entrevue, Monique Giroux et Francis Legault. Ont collaboré à cette émission Jeannine Marc Peset, Yves Buy, Jean-Claude Arnaudon, Pierre Collarbovi, Serge Brideau et Yves Cléroux. Réalisation Francis Legault, assisté de Françoise Tremblay.